Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 11 mars 2024. Dans quelques instants, je vais vous présenter le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le leader de la révolution islamique a décoré les commandants en chef du CGRI et de l'armée iranienne. Attaque aux missiles et de drones de la résistance palestinienne contre l'armée d'occupation. Et l'Italie a critiqué l'idée de la France et de la Pologne d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le leader de la révolution islamique a décerné la médaille de la conquête, Fath, au commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique et de l'armée iranienne. L'honorable Ayatollah Ali Khamenei a décerné ce dimanche 10 mars la médaille au général de division Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, au commandant en chef de l'armée iranienne, le général de division Abdurrahim Mousavi, pour exprimer son approbation des deux forces militaires iraniennes. S'exprimant lors de la cérémonie de clôture d'une conférence sur le service militaire obligatoire à Téhéran, le général Salami a déclaré qu'il avait reçu la médaille de la part de l'Ayatollah Khamenei, commandant en chef des forces armées iraniennes. Il a ajouté que l'Ayatollah Khamenei avait donné au CGRI un symbole clair de sa satisfaction à l'égard de tous les efforts de cette force. Le général Salami a souligné que la médaille de la conquête qui lui avait été décernée par le leader de la révolution islamique appartenait en réalité à tous les membres du CGRI qui défendaient l'intégrité et l'indépendance du pays. En août dernier, le leader de la révolution islamique avait loué la force d'élite du CGRI comme la plus grande organisation antiterroriste au monde. C'est une organisation militaire bien équipée, efficace et indépendante qui est capable d'accomplir des tâches que de nombreuses grandes armées du monde ne peuvent accomplir, avait-il souligné. La résistance palestinienne dans la bande de Gaza continue d'affronter les forces d'occupation israéliennes qui entrent dans l'enclave. Elles s'engagent dans des combats acharnés sur tous les fronts. Les brigades al-Rassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont publié dimanche 10 mars des scènes d'une opération de largage de deux missiles antipersonnels via un drone visant un point militaire et les tentes de commandement de l'armée israélienne à l'est de la ville de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. Les opérations de la résistance palestinienne contre les forces d'occupation confirment la présence et la force de la résistance et réfutent les affirmations israéliennes selon lesquelles Israël imposerait un contrôle militaire sur le gouvernorat du nord de la bande de Gaza et en retirerait ses forces. De même, les brigades al-Rassam ont annoncé dimanche que leurs combattants avaient réussi à tirer sur un soldat israélien avec un fusil roule au sud du quartier de Tal al-Hawa, dans la ville de Gaza, documentant cela avec des scènes qu'elles ont publiées. Pendant la scène où le soldat israélien a été abattu à Gaza, l'un des tireurs d'élite des brigades d'Al-Rassam a envoyé un message à l'occupation, disant « Nous vous chasserons comme des canards. Gaza sera votre cimetière. » Cette opération de tir isolé est un hommage à la résistance yéménite et au chef d'Ansar Allah, Abdulmalik Al-Houssi. Les brigades moujahidines ont par ailleurs confirmé avoir ciblé un rassemblement des forces d'occupation israéliennes avec des missiles à courte portée à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Elles ont également ciblé un rassemblement et un déploiement de véhicules et de soldats ennemis sionistes avec un certain nombre d'obus de mortiers de gros calibre à l'est de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. Les forces israéliennes ont attaqué dimanche soir des centaines de fidèles palestiniens qui se dirigeaient vers l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la ville de Rotz, en Cisjordanie occupée, pour accomplir les prières du soir. Les forces israéliennes n'ont autorisé que l'accès des femmes de plus de 40 ans à la mosquée Al-Aqsa. Depuis 5 mois, le régime de Tel Aviv a installé des mesures strictes autour de la mosquée Al-Aqsa et bloqué l'accès des Palestiniens lorsqu'il a lancé sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza. Le régime a également émis des dizaines d'ordres d'expulsion contre les résidents palestiniens de Rotz pour les empêcher de prier pendant le mois sacré du Ramadan. En réaction, le djihad islamique de la Palestine a publié dimanche une déclaration avertissant que le régime joue avec le feu. La profanation de la mosquée Al-Aqsa par l'occupation et les bandes de colons, ainsi que la restriction de la circulation et de l'accès des fidèles palestiniens, c'est de jouer avec le feu, a-t-il dit, ajoutant « Le djihad islamique et le peuple palestinien ne resteront pas silencieux face aux actions du régime sioniste ». Dans un communiqué fin février, le mouvement de résistance palestinien Hamas avait mis en garde contre une nouvelle escalade si le régime israélien continue à empêcher les musulmans de prier dans la mosquée Al-Aqsa pendant le mois béni de Ramadan. Le leader d'Ansar Allah a tiré la sonnette d'alarme sur la négligence de l'Oumma islamique face aux brutalités qu'endurent les habitants de Gaza. Se référant à l'importance des manifestations organisées par le peuple yéménite en soutien aux habitants de Gaza, le leader d'Ansar Allah a affirmé que les opérations yéménites contre les navires britanniques, américains et israéliens se poursuivraient. Il ne s'agit pas seulement de simples manifestations. Elles sont en rapport avec les attaques de missiles et de drones contre les navires britanniques, américains et israéliens. Les Américains constatent qu'une tempête humaine soutient ces attaques, a confié Abdulmalik Al-Houssi, le leader d'Ansar Allah, dans un discours prononcé dimanche 10 mars à la veille du mois béni de Ramadan, lors d'une visioconférence avec les responsables politiques et le peuple yéménite. La base américaine dans le champ gazier de Conoco, dans le nord-est d'Deir ez-Zor, a fait l'objet d'attaques de 2 drones. Une source sur le terrain a déclaré dimanche 10 mars que des colonnes de fumée s'élevaient du côté sud de la base américaine. Dimanche 25 février, un correspondant de Sputnik dans la province syrienne de Deir ez-Zor a rapporté que 3 enfants avaient été tués et 2 autres blessés dans l'explosion d'un champ de mines posé par l'armée américaine autour d'une de ses bases illégales. 3 enfants sont morts alors qu'ils faisaient paître leurs moutons après l'explosion d'une mine terrestre posée par l'armée américaine autour de la base qu'elle a établie dans le champ de gaz naturel de Conoco, dans la banlieue nord de la province de Deir ez-Zor, a rapporté Sputnik. L'explosion a fait parmi les enfants 2 blessés, dont l'un se trouve dans un état grave. Les enfants étaient âgés de moins de 14 ans. Depuis le début de cette année, la province de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie, a connu un certain nombre de morts et de blessés à la suite d'explosions de mines terrestres laissées par Daesh. Il existe 24 bases américaines et 4 centres de commandement répartis dans l'est de la Syrie, qui sont constamment la cible de missiles et de drones. Le pire étant le bombardement de la base américaine d'Al-Tanf, qui a fait des morts et des blessés parmi les forces militaires américaines. L'Italie a critiqué l'idée de la France et de la Pologne d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine. Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, commentant les propositions d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine, a déclaré que la France et la Pologne ne peuvent pas parler au nom de l'Alliance, qui, dès le début, n'est pas formellement et volontairement intervenue dans le conflit. Le ministre italien de la Défense a ajouté que l'entrée des troupes occidentales en Ukraine constituerait un pas vers une escalade unilatérale qui détruirait la voie de la diplomatie. Dans le même temps, Crosetto a affirmé que l'Occident avait augmenté la production d'armes, mais que ses capacités étaient toujours à la traîne par rapport à la Russie. La nouvelle tombe alors que le ministre français des armées a annoncé le 8 mars que plusieurs entreprises françaises allaient créer des partenariats avec des entreprises ukrainiennes pour produire des pièces détachées, peut-être même des munitions demain, sur le sol ukrainien. Une initiative qui, selon le ministre français, ferait consensus parmi les soutiens de Kiev. « Nous ne sommes pas au maximum de ce que nous pouvons faire pour l'Ukraine », a déclaré Sébastien Lecornu, ministre français des armées. « Produire sur le sol ukrainien, produire des armes sur le sol ukrainien, entretenir des armes sur le sol ukrainien est l'une des propositions qui aurait fait consensus à Paris », selon le ministre français interrogé sur les propos d'Emmanuel Macron, qui, à l'issue d'une conférence de soutien à l'Ukraine le 26 février, avait déclaré que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne pouvait être exclu. Une sortie du président français qui avait été immédiatement et quasi immédiatement désavouée par les dirigeants européens et dénoncée par les oppositions en France, dévoilant des fissures dans l'unité des alliés occidentaux de Kiev. Ces déclarations du ministre français des armées surviennent au lendemain d'une réunion de suivi consacrée au soutien à l'Ukraine et organisée par la France. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les prisons israéliennes sont plus dures que celles de Guantanamo et d'Abu Ghraib. Un ancien prisonnier palestinien affirme que ce qui arrive aux Palestiniens dans les prisons israéliennes est plus dur que ce qu'ils endurent dans les célèbres prisons américaines de Guantanamo au sud-est de Cuba et d'Abu Ghraib en Irak. Cheikh Talal Abdurrahman, qui a purgé une peine de 18 ans dans les prisons israéliennes, a fait cette déclaration dans une interview exclusive avec Presse TV. La répression du régime israélien contre les Palestiniens depuis le 7 octobre 2023 s'est accrue et le nombre de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes dépasse les 12 000 personnes. Avant cette date, ils étaient 5 000 détenus, notamment des femmes et des enfants. 7 000 personnes y ont été ajoutées, a-t-il expliqué. Évoquant les souffrances que subissent les prisonniers palestiniens dans les prisons du régime occupant, Cheikh Abdurrahman a estimé que la libération de la Palestine ne peut qu'être précieuse et le prix que les Palestiniens paient pour la liberté est élevé. La souffrance d'un détenu palestinien est double. La première, lorsque l'armée d'occupation fait une descente dans sa maison, fait exploser les portes, pénètre à l'intérieur et commence à tout saccager. Il terrorise les enfants, les femmes, les pères et les mères à la vue du prisonnier menotté dans le dos. Toute personne qui essaierait de protester ou de parler est frappée devant tout le monde, a précisé l'ancien prisonnier. Les soldats israéliens saccagent la maison et emportent tout ce qu'ils trouvent. L'argent, ils le volent. Ils volent les bijoux, les appareils électroniques, les ordinateurs et les téléphones. Ils confisquent tout. La deuxième souffrance commence lorsque le prisonnier est embarqué dans le véhicule des troupes armées pour un interrogatoire. Sur le chemin, il est agressé physiquement et verbalement et entend des propos blasphématoires. Tout cela fait partie de la torture psychologique. En effet, le régime israélien a recours à la torture systématique, notamment l'électrocution, la privation de nourriture, des soins médicaux et les abus sexuels comme arme de guerre contre les Palestiniens. Il n'y a aucune humanité dans les actions du régime israélien, a-t-il déclaré. le régime recourt à l'insulte et à la force pour obtenir des aveux. Il procède à l'arrestation de femmes et d'enfants pour pousser la résistance à se soumettre. Toute guerre a ses propres moyens, tels que la destruction, les bombes et les armes de destruction massive. Mais l'autre moyen consiste à torturer des civils qui ne sont impliqués dans aucune opération afin de pousser les combattants à renoncer et à brandir le drapeau blanc. Les atrocités du régime d'Israël dans la bande de Gaza se déroulent dans le silence assourdissant de la communauté internationale, des organisations de défense des droits de l'homme et des Nations Unies. Toutes leurs réunions sont vaines et c'est parce qu'Israël est le fils gâté des États-Unis et le sale outil de Washington dans la région. Le nombre des détentions administratives des Palestiniens, en particulier des mineurs, augmente de façon alarmante. La détention administrative vient du Royaume-Uni et le régime israélien a hérité de cette politique après la décision de Londres selon laquelle les détenus palestiniens doivent être emprisonnés sans inculpation pendant 6 mois. Cette période étant susceptible d'être prolongée de 6 mois, puis d'un an. Cette politique administrative n'est appliquée nulle part dans le monde et plus de 3000 détenus administratifs se trouvent actuellement dans les prisons israéliennes. Les Palestiniens traitent les captifs israéliens humainement, alors que nous constatons le comble de l'ignoble dans les prisons du régime, affirmé Abdourahman, expliquant comment l'opération Tempête d'Al-Aqsa a changé la façon dont le monde perçoit la question palestinienne. Il a ajouté que cette opération de représailles a réveillé la conscience du monde, suscité de nombreux rassemblements pro-palestiniens à travers le monde. Des centaines de personnes se sont converties à l'islam grâce à la fermeté des Palestiniens contre l'oppression israélienne. Désormais, le monde regarde la Palestine avec admiration et respect, a-t-il dit, appelant la communauté internationale à tenir le régime israélien responsable de ses crimes à Gaza au cours des 5 derniers mois, il a indiqué. Les nations musulmanes devraient soutenir la nation opprimée de la Palestine. Elle est la nation la plus opprimée au monde. Nous sommes soumis à l'occupation et à l'oppression depuis plus de 70 ans. Nous sommes soumis à l'occupation et à l'oppression depuis plus de 70 ans. Nous avancerons sur la voie que nous avons choisie jusqu'à la victoire totale et la libération de notre patrie ancestrale, Palestine.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, dans le débat d'aujourd'hui, il sera question de la politique de deux poids deux mesures qu'exercent les États-Unis contre les Palestiniens. En effet, ils avaient déjà donc fourni des armes et de l'argent pour lancer une guerre génocidaire par Israël contre les Palestiniens. Également, ils avaient opposé donc leur veto concernant une résolution pour un cessez-le-feu. Et voilà que maintenant, ils évoquent un cessez-le-feu et demandent à Hamas de respecter un cessez-le-feu immédiat. Donc, on voit très bien cette politique de deux poids deux mesures que mènent les États-Unis concernant, bien sûr, les Palestiniens. Alors, nous allons développer ces questions à l'aide des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Les États-Unis multiplient les pressions sur le mouvement de résistance palestinien Hamas en vue de l'obtention d'un cessez-le-feu temporaire. Il s'agit là d'une nouvelle tentative de Washington de soutenir le régime après l'avoir déjà fait en lui fournissant des armes et de l'argent pour lancer sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza. C'est actuellement entre les mains du Hamas, a déclaré le président américain aux journalistes du Maryland, en faisant référence à l'approche du Ramadan qui devrait commencer au début de la semaine prochaine. Biden a avancé que le régime de Tel Aviv avait présenté une offre rationnelle sur l'établissement d'un cessez-le-feu. Il a également parlé des captifs israéliens détenus à Gaza, mais a omis de mentionner les milliers de Palestiniens qui croupissent dans les prisons du régime pendant des mois et des années sans procès ni inculpation. Le président américain a fait ses remarques alors que les médiateurs égyptiens et qataris tentent de trouver des moyens de parvenir à un accord avant le mois sacré du Ramadan. Les États-Unis ont déjà opposé leur veto à 3 résolutions de l'ONU sur le cessez-le-feu à Gaza et ont fourni à Tel Aviv un soutien militaire et financier pour la guerre. Parallèlement, le Hamas a souligné que la sécurité des Palestiniens ne sera pas garantie tant qu'un cessez-le-feu permanent ne sera pas établi. Israël serait opposé au retrait de ses forces et au retour des réfugiés palestiniens. En décembre, les combats ont été interrompus et l'aide humanitaire a été autorisée à entrer à Gaza dans le cadre d'un cessez-le-feu d'une semaine. Il y a également eu un échange de 240 Palestiniens avec 105 captifs israéliens. Le Hamas a répété à maintes reprises que tout accord d'échange de prisonniers était hors de question à moins que les conditions d'un cessez-le-feu ne soient remplies.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert de questions internationales, qui est avec nous depuis la France. M. Cornu, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à toutes.
Un plaisir de vous recevoir. Un grand bonjour à Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Bonjour, M. Rami.
Bonjour.
Un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez eu une longue lutte contre le régime sioniste, Ahmad Rami. Il faut également citer M. Bernard Cornu, que depuis récemment, bien sûr, participant à toutes les manifestations, se rendant à Londres, par exemple, pour participer pendant des manifestations contre les Israéliens qui mènent donc cette guerre génocidaire dans la bande de Gaza. Il faut les féliciter et les saluer, bien sûr. Ma première question va s'adresser à M. Bernard Cornu, donc concernant cette politique de deux poids, deux mesures qu'exercent les États-Unis dans la bande de Gaza. D'une part, il s'oppose donc un veto concernant la résolution donc pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Et de l'autre part, exerce des pressions sur le Hamas pour commencer un cessez-le-feu. Comment expliquer cette politique de deux poids, deux mesures, M. Bernard Cornu?
C'est une vieille politique américaine de défendre à tout prix l'État israélien, quoi qu'il fasse, de lui assurer une totale impunité pour ses faits, et quand il reproche certaines choses, y compris du temps du président Obama, ou même une résolution des Nations Unies condamnant les colonies qui a été votée, il n'y a pas eu d'abstention ou de veto américain, il n'y a pas de sanctions. Les seules sanctions, des arrêts sur armes, peuvent faire l'État israélien. Et occupant que la vue dans d'autres pays, ce qui lui déplaît. Donc voilà, c'est l'exorbitant pouvoir des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui lui permet d'assurer cette impunité totale à Israël face aux exactions. Et on le voit même dans l'exécution des décisions, des ordonnances de la Cour internationale de justice et bientôt sans doute de la CPI, l'État israélien qui est condamné, à qui est reproché des choses, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'exécutif, il n'y a pas de police internationale encore pour mettre à l'œuvre l'exécution des sentences juridiques.
Absolument. Je m'adresse à Ahmad Rami, qui est bien sûr Radio Islam en Suède. Vous avez beaucoup à dire, Ahmad Rami, sur la politique de deux poids, deux mesures des États-Unis dans la bande de Gaza et contre les crimes commis par le régime israélien dans la bande de Gaza, n'est-ce pas?
Bien sûr,
Et c'est deux poids, deux mesures, en fait. Ce n'est pas des... En réalité, il s'agit surtout du fait que c'est l'entité sioniste Israël qui décide de la politique et des décisions du gouvernement américain. C'est-à-dire, en fait, le gouvernement américain ne prend pas des décisions américaines, mais prend des décisions israéliennes, parce que c'est le lobby israélien qui gouverne les États-Unis. Et, c'est-à-dire, en fait, les États-Unis occupent toutes les institutions et les moyens de choisir les dirigeants et la politique américaine. Et bien sûr, la propagande sioniste israélienne veut présenter ça comme une décision américaine, mais en réalité, ce sont des décisions sionistes parce que Israël n'occupe pas seulement la Palestine, comme j'ai toujours dit, les États-Unis, l'entité sioniste, l'occupant sioniste américain, occupe aussi les États-Unis et l'Occident en général, et même les gouvernants arabes qui décident aujourd'hui. On le voit, leurs décisions ne sont pas seulement des décisions, mais c'est une capitulation, c'est une trahison qu'ils, en réalité, qu'ils exercent, les dirigeants arabes. Et donc, c'est totalement clair et net que c'est le lobby israélien, de l'occupation israélienne, qui occupe les États-Unis, qui occupe l'Occident, qui occupe les institutions internationales, puisque les grandes puissances occupées par l'entité sioniste, ces grandes puissances occupent les États-Unis. Le droit de veto, pourquoi ce droit de veto? À qui est donné? Pourquoi on a donné ce droit de veto? On l'a donné au plus fort qui décide, c'est-à-dire selon la loi de la jungle, la loi du plus fort, la loi de la force. Donc il faut pas seulement aller dans la version de la propagande sioniste et dire que ce sont des décisions purement américaines. Non, il faut poser le problème. C'est posé même dans le monde arabe, c'est posé aux États-Unis, dans tous les pays.
Absolument.
C'est les lobbies sionistes qui occupent ces pays. Moi, j'habite en Suède. Eh bien, tous les médias sont occupés par le lobby sioniste, par Israël. Donc, ce n'est pas le gouvernement suédois. Moi, j'habite en Suède. Ce n'est pas le gouvernement suédois, en réalité, qui décide. C'est le lobby sioniste qui occupe les médias en Suède, qui occupe les institutions politiques en Suède. Donc, mais la propagande sioniste veut présenter ça comme des décisions suédoises, des décisions des États-Unis, des décisions de la France. Mais en réalité, il faut dire la vérité telle qu'elle est. C'est le lobby sioniste qui exerce dans tous les pays, qui exerce la politique dans tous les pays et qui domine et qui occupe politiquement les pays, les grands pays, alors qu'il occupe militairement la Palestine. La Palestine, politiquement, est moins occupée car le peuple palestinien est totalement, conscient de la situation que c'est Israël qui occupe la Palestine, non pas les Palestiniens.
Absolument.
Et la même chose. Oui, alors donc il faut dire la vérité, il faut dire telle qu'elle est, ce qui occupe, parce qu'il y a la résistance en France et la résistance aux États-Unis, dans tous les pays, en Amérique latine, la résistance contre cette occupation qui occupe tous les pays. Donc il faut d'abord libérer, on ne peut pas en réalité libérer la Palestine avant de libérer d'abord les États-Unis. C'est le peuple américain qui va libérer les États-Unis.
Absolument. Bernard Cornu, votre réaction, je vous prie. Donc, des propos très intéressants, donc évoqués par Ahmad Rami. Est-ce que vous pensez que cette occupation est totale des Israéliens, d'une part aux États-Unis, et des institutions et les médias partout dans le monde, avec ce lobby très fort donc, que joue Israël sur le monde entier, certains pays en tout cas. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ça?
C'est Netanyahou l'avait dit lui-même dans un entretien avec des colons. Le microphone était encore maintenu, mais donc il y a eu un enregistrement où il disait, en gros, j'ai dans mon ordinateur les propos exacts, mais en gros il disait, nous faisons ce que nous voulons avec le gouvernement des États-Unis. Donc lui-même avait été enregistré pour dire cela, alors qu'il ne savait pas qu'il était entendu, qu'il était enregistré. Et d'autre part, ce lien, donc, il faut l'expliquer, c'est le lien de l'argent. C'est que l'État israélien dépense énormément d'argent pour financer des élections de certains élus républicains, notamment ceux du Sud républicains, parce que ce sont les régions pétrolières du Texas, et qui est un État très riche et avec beaucoup d'élus, sénateurs ou membres de la Chambre des représentants. Et en fait, de là se rappelle ce pouvoir de l'argent, puisque le Sud pétrolier, c'est lui qui a voulu, depuis une centaine d'années, toujours contrôler le Moyen-Orient à cause du pétrole et avoir un point d'appui. Donc c'est pour ça, par cette région, cet intérêt de l'argent, cet intérêt économique, impérialiste, qu'il souhaite soutenir ce point d'appui des Américains, de l'Amérique au Moyen-Orient pour contrôler l'ensemble de la région à cause du pétrole et du gaz. Et ça me rappelle aussi pourquoi le Likoud et ce parti extrémiste garde le pouvoir. C'est qu'en fait, comme ils donnent l'autorisation pour des logements illégaux, récemment encore 3 500 logements ont été agréés, cela fait des centaines de millions de dollars pour les entreprises. Et c'est évident qu'ils payent des bakchiches aux députés du Likoud ou aux personnels du Likoud qui ont donné ces autorisations. Donc ce mécanisme de l'argent est le mécanisme fondamental qui maintient Israël depuis longtemps. Et c'est ceci sur lequel il faut enquêter et c'est ceci qu'il faut dénoncer. Ce sont ces soutiens complètement illégaux dans ce pays, l'Amérique, dans lequel il n'y a pas de démocratie réelle parce que les candidats à la présidence de la République des États-Unis dépensent plus d'un demi-milliard et parfois même plus d'un milliard de dollars chacun. Donc c'est encore le pouvoir de l'argent. C'est l'argent qui mène la barque des élections aux États-Unis. Ce n'est pas une réelle démocratie.
Absolument.
Et c'est la même chose en Israël.
Absolument. Merci, Monsieur Bernard Cornu. Vous évoquez bien sûr la question de l'argent. Ce sont les États-Unis donc qui fournissent des armes et de l'argent au régime sioniste pour lancer donc une guerre génocidaire considérable, tuant plus de 30 000 personnes, des femmes et des enfants, donc dans ce pays. Ahmad Rami, tout à l'heure, vous avez évoqué que, vous avez dit une phrase très intéressante, vous avez dit que la Palestine était moins occupée que les États-Unis par le lobby sioniste. Est-ce que vous pouvez développer cette question? Et vous aviez également dit que c'est au peuple américain de libérer donc les États-Unis des mains d'un occupant qui est le régime israélien.
Oui, car disons que le peuple palestinien est conscient qu'elle est occupée. Donc c'est pour ça qu'il y a une résistance. Alors que, par comparaison, le peuple américain n'est pas conscient parce que l'idéologie, c'est... Cette idéologie, c'est une image de la réalité. C'est-à-dire, en fait, la réalité n'est pas l'image de la réalité, la propagande. Et c'est pour cela que, en fait, ce que maintenant les médias, ce sont eux qui font l'image de la réalité. C'est-à-dire, le monde entier voit maintenant la question palestinienne selon l'image que les médias sionistes qui sont dominés et possédés par l'argent de lobby sioniste, donc cette image qui est donnée par l'entité sioniste, la propagande, c'est ce que les gens voient, parce que le citoyen suédois, américain ou français, la majorité des citoyens ne peuvent pas suivre l'histoire, ils ne savent pas de quoi il s'agit, la Palestine c'est quoi, l'occupation c'est quoi. Donc ce qu'ils voient, eux, c'est ce qui leur est servi par les médias sionistes, c'est-à-dire la propagande israélienne. Et c'est pour cela qu'il faut, disons, nous, c'est notre devoir de présenter la réalité, l'image de la réalité. Dans ce domaine, en réalité, le peuple palestinien est plus libre, puisqu'il est plus conscient, que le peuple américain, en fait, qui est totalement esclavagisé, sous l'esclavage de la dominance, des finances, de l'argent sioniste et de l'occupation, parce que les sionistes ne sont pas seulement de l'argent, mais ils sont très organisés, très actifs. Ce sont des acteurs. Alors que la majorité des non-sionistes, ils ne sont pas actifs. Et ils ne sont pas des chiffres, ils sont des zéros. Politiquement, ils n'existent pas puisqu'ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas organisés. Alors que les sionistes, ils sont très actifs, c'est comme toutes les sectes d'ailleurs, très organisés et très actifs. Donc en fait, les non-sionistes, ce sont des zéros et les sionistes, ce sont des chiffres. Alors 0 plus 0 plus 0, c'est 0. Alors que les sionistes, 1 plus 1 plus 2, les chiffres, ça compte. Donc ils constituent aujourd'hui, en réalité, la majorité dans le monde et localement, ils constituent la majorité puisqu'ils sont actifs. En Suède, par exemple, même s'il n'y a que 60 000 sionistes, mais ils sont actifs et très organisés. Alors que nous, les non-sionistes, ne sont pas actifs et ne sont pas organisés. Et en plus, ils occupent les médias qui donnent à l'opinion publique, aux citoyens suédois, l'image, pas la réalité, l'image d'une réalité qu'eux-mêmes, ils en font l'image. Donc, en réalité, le peuple suédois est trempé par la propagande sioniste.
Absolument.
Et ce n'est pas un hasard que tous les médias, en Suède ou en France ou ailleurs, sont possédés, organisés et dominés par le lobby sioniste, que ce soit les médias privés ou les médias publics. Tous. J'ai agi moi-même en Suède maintenant pendant, disons, 50 ans. Dans la lutte, dans la résistance, parce que moi, à mon avis, il faut exercer cette résistance, il faut faire son devoir, là où on est, faire ce qu'on peut faire. Alors moi, je fais ce que je peux faire, et tout le monde doit faire en tête ce qu'ils peuvent faire, c'est déjà beaucoup. Et les Palestiniens, maintenant, font ce qu'ils peuvent faire. Et le peuple, les Américains, ils sont aussi dans la résistance américaine.
Absolument.
Contre la domination sioniste, ils font aussi leur travail, et même en Suède ici, en France, il y a une résistance un peu partout.
Tout à fait. Bernard Cornu, que pensez-vous des propos de M. Ahmad Rami, je vous prie?
Oui, c'est vrai que les sionistes organisés sont très puissants dans les médias, en Occident. Il y a aussi partout une résistance, et je voudrais signaler aussi une résistance parmi les universitaires et les chercheurs aux États-Unis et même en Israël, dont beaucoup aussi sont juifs, ont émis une nouvelle pétition en décembre qui demande un cessez-le-feu immédiat et durable avant un échange des prisonniers, et surtout ils condamnent l'occupation très ancienne, les expulsions qui datent déjà de 1948 et 16 ans de blocus sur Gaza comme une cause de tout ce qui s'est passé le 7 octobre, comme une cause de la résistance civile ou armée palestinienne. Et donc, il faut encourager ces milieux qui commencent à s'organiser parmi les intellectuels, les universitaires et d'autres professions d'ailleurs, aux États-Unis et même en Israël, où ils sont effectivement très minoritaires, ils ont très peu d'influence politique, mais il faut justement parler de cette opposition très ferme à cette domination sioniste aux États-Unis et ailleurs pour pouvoir ne plus appliquer ce deux poids et deux mesures. Je voudrais enfin rappeler, comme je l'ai fait souvent, une phrase de Chirac, qui était président de parti à l'Assemblée nationale juste à la veille de la guerre du Golfe en 91, le 16 janvier. Il a dit « Il y a de par le monde deux poids et deux mesures, le règlement de la crise du Golfe, sous-entendu par une résolution des Nations Unies sous chapitre 7, avec recours à la force, doit permettre de créer un précédent opposable à toutes les atteintes portées aux libertés des peuples et des hommes, et c'est là la justification essentielle et primordiale de notre intervention dans cette région. » C'était Jacques Chirac qui le disait, et sous-entendu, lui qui connaissait bien le problème palestinien, qui s'était rendu très souvent dans plusieurs villes palestiniennes, Il disait qu'il fallait régler le problème palestinien par une résolution chapitre 7, c'est-à-dire avec recours à la force sous le contrôle d'un état-major des Nations Unies. Et que sinon, il y avait deux poids et deux mesures, puisqu'il constatait qu'on avait obtenu l'évacuation du Koweït par l'Irak en 6 semaines, on en avait exigé, par une attaque concertée, et qu'on a vu plus tard, enfin Chirac ne l'a peut-être pas tout vu, mais on a appliqué ceci à la Libye aussi de façon abusive, et on l'a appliqué aussi à Daesh, selon résolution chapitre 7 des Nations Unies, qui sont le seul moyen d'appliquer une décision des Nations Unies. Toutes les autres résolutions ne sont pas applicables par la force, donc en fait elles sont juste du verbiage, une affirmation de principe, mais sans mesure effective pour les faire appliquer.
Eh bien, Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue depuis Vaucluse, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci à Ahmad Rami. Je rappelle qu'il est directeur de Radio Islam en Suède et expert des questions internationales. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Voyage dans l'univers mystique de Molavo. Le feu de la nostalgie. Majnoun, séparé de sa bien-aimée, était tombé malade et le feu de la nostalgie faisait bouillir son sang. Un médecin vint pour le soigner. Mais lorsqu'il mit le doigt sur le siège de sa douleur, l'amoureux poussa un cri. « Laisse-moi. Si je dois mourir, ce sera tant pis. » Le médecin répliqua étonné. « Toi qui ne crains pas le lion et qui es chaque soir entouré d'animaux sauvages, les effrayant par la seule force de ton amour, que signifie cette peur subite ? » Majnoun répondit : Je n'ai pas peur de la maladie, car je suis plus patient que la montagne. Mon cœur est content de la maladie. Le chagrin est mon lot quotidien, et mon corps est plein de Leïla. Aussi ai-je craint qu'en me faisant une saignée, tu ne blesses ma bien-aimée. La perle. Il y avait un homme nommé Nassou qui s'occupait au hammam du service des femmes. Son visage était très efféminé, ce qui lui permettait de dissimuler sa virilité. Son visage était très efféminé, ce qui lui permettait de dissimuler sa virilité. C'était un maître dans l'art du déguisement. Et depuis des années qu'il agissait ainsi, personne n'avait découvert son secret. Mais en dépit de son visage et de sa voix flûtée, son désir était ardent. Il couvrait sa tête d'un voile, mais c'était un jeune homme bouillant. Souvent, il se repentait de cette activité, mais son désir reprenait le dessus. Un jour, il alla voir un sage afin que celui-ci lui procure le secours de ses prières. Le sage comprit d'emblée la situation et n'en laissa rien paraître. Ses lèvres étaient comme cousues, mais dans son cœur, les secrets étaient dévoilés. Car ceux qui connaissent les secrets ont la bouche fermée d'un sceau. Ainsi, avec un léger sourire, il dit au jeune homme : Que Dieu te fasse repentir de ce que tu sais. Cette prière traversa les 7 cieux et fut agréée, car les prières de ce cheikh étaient différentes des autres. Dieu créa donc un prétexte pour tirer Nassour de la situation dans laquelle il s'était mis. Un jour, alors que Nassour remplissait une bassine d'eau, la fille du sultan égara une perle. C'était l'un des joyaux qui ornait ses boucles d'oreilles. Toutes les femmes présentes se précipitèrent de tous côtés pour la retrouver. Elle enferma les portes. On beaufillait partout. La perle demeura introuvable. Pour ne rien négliger, il fut décidé d'inspecter les personnes présentes, de regarder dans leurs bouches, leurs oreilles et dans tous les trous et fentes. On ordonna à chacune de se dévêtir pour être fouillée. Nassour, retiré dans un coin, le visage pâle, manqua à s'évanouir de peur. Il pensait à la mort et son corps tremblait comme une feuille. Il se disait « Oh mon Dieu, j'ai beaucoup péché. J'ai manqué à mes bonnes résolutions. Et quand viendra mon tour d'être fuyé, qui peut dire combien de tortures je subirai? Je sens déjà l'odeur de roussi de mes poumons. Ah, je ne souhaite à personne, fût-il infidèle, de connaître pareil passe. Plus au ciel que ma mère ne m'eût pas enfantée. Aucun lieu m'eût dévoré. Oh mon Dieu, je me confie en ta miséricorde. Prends pitié de moi. Accorde-moi la grâce, car chaque porte de ma peau est comme mordue par un serpent. Si tu couvres ma honte, je me repentirai de tous mes péchés. Accepte encore une fois mon repentir. Et si je n'honore pas cette promesse, fais de moi ce que tu voudras. » Tandis qu'il marmonnait ainsi, Nassour entendit quelqu'un dire « On a fuyé presque tout le monde, mais où est donc passé Nassour? Qu'elle vienne afin de subir, elle aussi la fuit. » En entendant cela, Nassour s'écroula comme un mur qui s'effondre. Sa raison l'abandonna, il demeura au sol, inanimé. Dans cet état, alors qu'il était hors de lui-même, il put atteindre le secret de la vérité. Alors que rien ne subsistait de son existence, une faveur fut faite à son âme. Celle-ci s'échappa de la raison pour rejoindre la vérité. Ce fut alors que déferla la vague de la miséricorde. Soudain, quelqu'un cria « Voici la perle, je viens de la trouver. Rassurez-vous et réjouissez-vous avec moi. » Les femmes battirent des mains en disant « Tout s'arrange. » L'âme de Nassour revint à la surface et ses yeux revirent le jour. Chacun lui faisait des excuses pour avoir douté de son honnêteté. « Nous t'avons calomnié, Nassour, mais comme c'est toi qui étais la plus proche de la fille du sultan, n'était-il pas normal que tu sois soupçonné en premier ?» En fait, les femmes auraient bien voulu commencer la fuite par elle, mais par respect pour son intimité avec la fille du sultan, elles avaient voulu lui laisser ainsi une occasion de se débarrasser de la perle. Tandis qu'elle faisait amende honorable, Nassour disait « Ne vous excusez pas, je suis coupable et ma culpabilité dépasse la vôtre. Ce qui m'arrive est une faveur de Dieu. Mais en réalité, je suis pire que vous ne vous l'imaginez. Tout ce que vous avez pu dire à mon sujet n'est pas le centième de mes péchés. Qui croit connaître mes fautes n'en sait en fait qu'une infime partie. » Dieu, qui jette un voile sur toute honte, connaissait bien mes péchés. Iblis, qui fut un temps mon maître, était devenu mon disciple. Dieu connaissait mes fautes, mais il les a cachées pour m'épargner la honte. Avec sa miséricorde, il m'a ouvert le chemin du repentir. Même si chacun de mes poils devenait une langue, cela ne suffirait pas pour exprimer ma gratitude. » Quelque temps après, quelqu'un va le voir de la part de la fille du sultan pour l'inviter à accomplir son service au hammam. Elle ne voulait, lui dit-on, être servie que par elle. Nassour répondit va, je suis sorti de cette impasse, dit que Nassou est malade. Et il se disait, je suis mort et ressuscité. Cet instant de peur que j'ai vécu est inoubliable. Après un tel avertissement, seul un âne persévérait dans l'erreur.
Thank you.